jusqu'à 13h30, les midis de culture. Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Place à la rencontre. Aujourd'hui, notre invité est écrivain. Il y a 10 ans, il bousculait le monde de la littérature avec son premier livre, En finir avec Eddie Bellegueule. Aujourd'hui, et après avoir écrit sur la violence, son père est livré une méthode pour changer de vie, il poursuit ce travail d'écriture autobiographique en parlant de sa mère, Monique. Monique s'évade est le récit d'une fuite, celle d'une vie avec un homme violent qui boit et l'insulte. Mais comment partir? Pour aller où quand on n'a pas le permis? Et avec quel argent quand on n'a pas de diplôme ni de travail? Parce que la fuite, ce n'est pas seulement partir, mais aussi s'organiser, se préparer, planifier, acheter de l'électroménager. Elle est avant tout une question matérielle. Mais la fuite est aussi une question politique. À quel moment s'évader, c'est aussi se libérer.
Édouard Louis, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue dans les Midis de Culture.
Merci.
Édouard Louis, vous parlez d'évasion, c'est le titre de votre livre. Monique s'évade, vous parlez de fuite plus que de libération, il me semble. Pourquoi vous insistez plutôt sur la fuite que sur la libération? Quelle différence vous faites entre les deux?
Oui, la fuite et l'évasion insistent sur le fait que se libérer, c'est se libérer de quelque chose, justement. C'est s'arracher à quelque chose. Et dans l'exemple de ma mère, être libre et devenir la femme qu'elle est a toujours voulu dire s'arracher à une situation, fuir des hommes qui la maltraitaient, fuir des hommes qui l'insultaient, fuir des hommes qui lui disaient de rester à la maison, de s'occuper des enfants, de faire le ménage, de faire la cuisine, de se taire, de pas passer le permis de conduire. Et au fond, pour quelqu'un comme elle, une liberté sans évasion n'aurait pas été possible. Il n'y a pas d'évasion, il n'y a pas de liberté abstraite, mais seulement un arrachement. Et c'est pour ça que l'évasion, un peu comme quelqu'un qui s'évaderait de prison.
Oui, c'est à ça que ça fait penser.
Exactement. Et sans doute le terme qui désigne le mieux une trajectoire comme celle-ci. Et d'ailleurs, tout mon livre, Monique s'évade, a été écrit, même formellement et stylistiquement, avec les outils du film d'action, du film d'évasion. C'est un livre dans lequel j'ai cherché un rythme de course avec ma mère. Alors, le livre commence avec ma mère qui m'appelle en pleine nuit, qui me dit « L'homme chez qui je vis boit tous les jours et m'insulte, je veux m'enfuir, j'en peux plus, ça fait des années que c'est comme ça. » Et moi, je dis à ma mère, alors pars tout de suite. Un ami va venir t'ouvrir mon appartement, il a les clés, vas-y. Et à ce moment-là, ma mère va partir, elle va prendre simplement son chien sous son bras, un petit sac à dos, et elle va s'enfuir. Et déjà, cette première scène de cette femme qui s'enfuit dans la rue avec son chien et son sac était déjà pour moi digne d'une scène de film d'action, d'une scène d'évasion. Et ensuite, tout dans les images que j'ai recherchées, dans les sensations que j'ai retenues dans l'écriture du livre, ma mère qui monte les escaliers, essoufflée.
Le sac à dos soit petit aussi, ça m'a vraiment marqué. Vous dites que votre mère a fait en sorte de ne pas se charger avec une valise trop lourde, ce qui l'empêcherait de monter les escaliers ou de partir vite dans la rue. Et ça, c'est vrai que c'est une chose à laquelle on pense pas, en fait.
Oui, c'est comme c'est effectivement ce qui s'est passé d'ailleurs, mais c'était comme une métaphore de l'urgence de cette fuite, cette femme qui devait partir avec ce petit sac. J'étais terrorisé que l'homme chez qui elle vivait essaye de la rattraper. Je lui disais, prends un petit sac, tu iras plus vite. Et moi, à ce moment-là, je suis à Athènes pour une résidence d'écriture au moment où ma mère s'enfuit. Et je lui dis, je vais te commander un taxi, une voiture pour que tu puisses partir plus vite. Et je suis sur mon téléphone la progression du taxi à travers la ville, avec ma mère que j'imagine à l'intérieur. Et encore une fois, tout ça sont des images que j'ai empruntées au récit d'évasion. Et c'est pour ça que le mot évasion est si important ici.
Il est important aussi parce que vous faites référence à un livre d'Hélène Cixous qui s'appelle « Aide s'évade ». Vous la citez en exergue de votre livre. C'est donc la nouvelle vie, que je vois, nouvelle et vie avec des lettres majuscules. Comment vous avez puisé à la fois dans ces récits d'évasion, mais aussi chez Hélène Cixous, qui pour le coup n'est pas une écrivaine de polar ou de thriller?
Non, certes, mais c'est Hélène Cixous, c'est une grande écrivaine tout court déjà, et une grande écrivaine de la réinvention, de la nouvelle vie. Elle n'a pas cessé d'écrire les destins d'individus et surtout de femmes qui ont fui une situation, sa famille qui a dû fuir l'Allemagne nazie pour échapper à l'Holocauste, sa famille qui ensuite est partie en Algérie, qui a dû fuir l'Algérie, fuir l'antisémitisme, qui est ensuite arrivée à Paris, qui a dû fuir la violence. Et il y a cette espèce de motif qui revient chez Hélène Cixous de l'existence comme une fuite recommencée. Et au fond, quand j'ai écrit Monique Sévade, j'avais déjà écrit un livre sur la première fuite de ma mère, qui s'appelait « Combat et métamorphose d'une femme ».
Qui était sorti en 2021.
Et je me suis dit, je dois raconter l'histoire de cette seconde fuite, puisque la répétition de la fuite ou de l'évasion, c'est la nature même de la violence. C'est-à-dire que la violence, ça s'arrête jamais. Quand on est femme, quand on est gay, quand on appartient à une catégorie politique qui est exposée à la violence, le principe, c'est qu'il faut toujours recommencer à fuir la violence. C'est pas parce qu'on l'a vécu un jour qu'elle s'arrêtera. Une femme qui est agressée dans la rue, elle sait très bien que ça peut se reproduire un jour quand elle sort. Et de la même façon, ma mère, elle avait vécu des choses très difficiles avec mon père, et le risque que ça recommence était là, et ça s'est reproduit. Et au fond, dans cette idée, comme l'a fait Hélène Cixous, de réécrire plusieurs histoires de fuite, d'évasion...
En fait, de ne faire que reformuler la même idée aussi, ça, de le travailler sous toutes ses facettes, presque.
Oui, comme si la nature même de la condition d'un certain nombre de femmes, c'était la répétition de des mêmes expériences et de l'évasion forcée. Comme si au fond il y avait qu'une saga qui pouvait rendre justice à l'histoire de corps comme celui de ma mère.
À quel récit d'évasion vous avez pensé ?
J'ai pensé à beaucoup de récits d'évasion, et notamment un de ceux qui était le plus important pour moi, c'est le livre de Patrick Chamoiseau qui s'appelle Le vieil homme esclave et le molosse, qui est l'histoire d'un esclave sur une plantation qui un jour décide de s'enfuir. Il fuit la plantation, il était l'esclave le plus silencieux, le plus discret, et un jour il s'enfuit. Il part dans la forêt, il court. Et l'esclavagiste qui le détenait lance le molosse, le chien, à sa poursuite. Et dans ce livre absolument extraordinaire et incroyable de Patrick Chamoiseau, les points de vue alternent du molosse et de l'esclave en train de fuir. Et c'est un livre qui m'a bouleversé par son rythme, par son écriture, qui évidemment évoque un niveau de violence beaucoup plus grand que celui que j'évoque moi dans mon livre, qui est celle de l'esclavagisme, alors que moi je parle de ma mère qui s'enfuit de chez un homme. Mais en dépit de ça, j'ai trouvé dans ce livre de Chamoiseau un rythme et une manière de raconter ce que ce serait une évasion.
Vous citez Patrick Chamoiseau, on a parlé d'Hélène Cixous, et puis vous parlez aussi de cette écrivaine dont on va entendre tout de suite la voix.
Of course, when that happened, that event of my
Évidemment, au moment où c'est arrivé, au moment où ma mère a rassemblé tous mes livres et y a mis le feu, je ne savais pas que cet acte avait déjà été commis par des gouvernements ou par des tueurs. Ce que je savais, par contre, c'est que c'était un geste atroce et dirigé contre moi. Il est possible que ma frénésie d'écrire soit née ce jour-là sur les cendres de ces livres-là. Mais ce qui me terrorise le plus au fond, c'est d'imaginer à quoi ma vie aurait ressemblé si je n'avais pas vécu ce moment d'horreur pure et si je n'avais pas écrit de livre. Ma mère m'a appris à lire à 3 ans et demi parce qu'elle-même aimait lire, ce qui est assez inhabituel pour une femme dans cette partie du monde. Elle m'a appris à lire parce que je la dérangeais quand elle lisait. Elle se disait que si je lisais mes propres livres, je la laisserais lire tranquillement les siens.
La voix de Jamaica Kincaid, je prononce bien son nom.
Oui, absolument.
C'était le 30 janvier 2000 dans l'émission Cosmopolitaine sur France Inter. Est-ce que vous pouvez nous présenter Jamaica Kincaid et pourquoi vous la citez aussi dans votre livre ?
Jamaica Kincaid, c'est une immense écrivaine qui vient d'une petite île des Caraïbes qui s'appelle Antigua, et qui a écrit une œuvre autobiographique absolument majeure, absolument extraordinaire, publiée en France aux éditions de l'Olivier. Et ce qui m'a frappé chez chez Jamaica Kincaid, c'est cette manière dont elle racontait comment elle-même, ayant grandi dans un milieu populaire d'Antigua, sa mère a lutté toute sa vie contre le fait que sa fille puisse devenir une écrivaine. Elle le racontait dans cet extrait d'entretien. Sa mère brûlait ses livres, voulait pas qu'elle aille à l'université, voulait pas qu'elle étudie. Jamaica Kincaid est devenue malgré tout une écrivaine et une immense écrivaine. Et au moment où sa famille a commencé à avoir des problèmes, le frère de Jamaica Kincaid a été infecté par le sida, il en est mort à l'époque où il n'y avait pas de traitement, et sa mère a eu des difficultés économiques extrêmes, Jamaica Kincaid a pu aider sa famille avec l'argent, le pouvoir, le statut qu'elle avait gagné comme écrivaine. Et au fond, ce que sa famille avait vu comme un tabou, une interdiction, est devenu plus tard ce qui a permis à Jamaica Kincaid d'aider et de sauver sa famille.
Ce paradoxe, c'est aussi le vôtre, Édouard Louis. Je l'ai dit, vous avez commencé à écrire il y a 10 ans pour rompre avec le milieu dont vous veniez, un milieu modeste dans le nord de la France, pour rompre avec cette violence, on vous parlait pour la fuir aussi, car c'est une histoire de fuite. Vous avez changé de nom, Eddie Bellegueule, c'était votre nom, vous vous appelez maintenant Édouard Louis. Vous avez aussi fui et acquis votre liberté, et paradoxalement, votre famille vous en a beaucoup voulu, mais c'est grâce à votre libération que votre mère a pu fuir elle aussi à son tour.
Oui, c'est justement à partir d'une sorte de conversation dans mon livre, dans Monique Sévad, une sorte de conversation avec Jamaica Kincaid et avec son œuvre, je me rends compte que quelque chose d'assez parallèle m'est arrivé. C'est que quand j'ai commencé à écrire des livres, ma famille et notamment ma mère n'ont pas apprécié ce que j'ai écrit, n'ont pas aimé le fait que j'écrive sur ma famille, que je dévoile ma famille.
C'est même un euphémisme de dire ne pas apprécier.
Oui, ma mère était folle de rage. Ma mère était allée dans les médias pour dire que c'était faux, que rien ne s'était passé de cette façon. Et paradoxalement, ce sont ces livres que j'ai écrits qui m'ont permis plus tard d'aider ma mère au moment où elle a voulu s'enfuir de chez un homme qui l'a maltraité. Parce que avec mes livres, j'avais gagné comme Jamaica Kincaid un statut, j'avais un confort économique, j'ai des diplômes, j'ai des connaissances qui m'ont permis d'assister ma mère dans son évasion. Et qu'est-ce que c'est la violence, et quelle est cette difficulté de la violence qui fait que ce qui parfois vous blesse à un moment donné et ce qui vous libère plus tard. Ça a été la même chose, si vous voulez, dans ma vie à moi. Je racontais dans mon premier roman, En finir avec Eddie Bellegueule, que toute mon enfance à l'école, les garçons m'ont craché dessus et m'ont traité de pédé à l'école. Et c'était quelque chose d'extrêmement violent. Mais je sais aujourd'hui que c'est ce qui m'a sauvé. Je sais que c'est ce qui m'a permis de m'enfuir. C'est ce qui m'a forcé à m'enfuir. Et donc à m'éloigner du monde de mon enfance. Et donc à ne pas reproduire la pauvreté ou les difficultés de mon frère ou de mon père. Et au fond, ce qui a été violent pour moi dans mon enfance, aujourd'hui, je le vois comme la chose la plus précieuse de ma vie. Les crachats que j'ai reçus, c'est la chose la plus précieuse de ma vie, parce que sans ça, j'aurais pas fui. Sans ça, je serais peut-être mort comme mon frère qui est mort de l'alcool. Sans ça, je serais peut-être ouvrier d'usine détruit comme mon père qui l'a été, qui aujourd'hui peut à peine marcher. Et Monique Sévad est un livre qui aussi interroge cette dynamique et cette complexité de la violence.
Oui, parce que d'un côté, ce que vous dites à propos de votre frère, à propos de votre père, ce que vous avez écrit à propos de votre père, c'est aussi une violence. Mais cette violence-là n'a pas été un moyen de les arracher à la violence. Vous parlez des crachats que vous avez reçus. Cette violence-là, vous dites, vous a permis de vous en arracher. Pourquoi il y a certains types de violence, ou même la même violence, parce que comment faire une typologie entre des crachats et une violence au travail? Pourquoi telle violence ou telle violence, à un moment donné, est libératrice, à un autre moment, est en fait destructrice?
Oui, je pense que c'est une question très importante. Et c'est quelque chose qui me frappe quand je, quand j'analyse le monde de mon enfance, c'est de voir que toutes les personnes qui étaient dominantes dans mon enfance, les hommes, mon père, sont aujourd'hui des personnes écrasées. Et toutes les personnes qui étaient dominées, les gays, les femmes, ma mère, ma sœur, aujourd'hui s'en sont plus ou moins sorties, ont une vie moins dure en tout cas. Et au fond, c'est ce qu'on pourrait appeler une forme de paradoxe de la violence. Le fait que parfois des individus, parce qu'ils sont encore plus dominés que les autres, parce qu'ils sont deux fois dominés, sont contraints à s'en sortir, sont contraints à devenir libres. Si vous voulez, la violence que vivait mon père comme homme ou que vivait mon frère, toute cette violence qu'ils emmagasinaient était souvent une violence qu'ils voyaient comme un choix.
Ou comme normal.
Comme normal, c'était être un vrai homme, de boire beaucoup d'alcool, de faire des choses dangereuses, d'avoir un comportement violent, toutes ces choses qui finissaient éventuellement par les détruire. Alors qu'une femme comme ma mère, elle a jamais pensé qu'elle avait choisi. C'était les hommes qui lui disaient « tu restes à ta place ». C'était les hommes qui disaient « tu élèves les enfants et tu travailles pas ». Et donc un jour, ma mère a pu dire « je vais reprendre à cette société ce que cette société m'a volé ». Et le fait que ma mère était plus dominée que les hommes est paradoxalement devenue la raison pour laquelle elle s'est libérée. Et c'est la même chose pour moi en tant que gay. C'est parce que j'ai été plus violentée que les autres que j'ai pu m'en sortir. Et ce qui veut dire que c'est pas une affaire de déterminisme contre liberté. C'est pas comme si ma mère avait été plus libre, comme si moi j'avais été plus libre que mon frère ou que mon
père. Parce que vous auriez vécu une violence plus disproportionnée.
Exactement.
Ou inattendue.
C'est le contraire. C'est qu'au fond, j'étais plus déterminée socialement que les autres. C'est pour ça que je m'en suis sortie. Ma mère était plus déterminée socialement que les autres. C'est pour ça qu'elle s'en est sortie.
Mais est-ce que c'est
elle
le cas?
Elle avait au fond une double violence.
Mais justement, cette double violence dont vous parlez, on pourrait se poser la question pour beaucoup de gays ou de femmes, qu'est-ce qui fait, et on ne peut pas non plus renoncer à cette idée-là, que Monique a pu s'évader, que vous avez pu vous évader. C'est une question politique que vous posez, mais elle se pose aussi à la des individus. Qu'est-ce qui fait que pour vous, il y a eu des déclics et pas pour le reste des personnes qui vivent cette double violence ?
C'est extrêmement complexe, bien sûr, parce qu'il y a plein d'éléments d'histoire, de l'histoire individuelle qui entre en jeu, les rencontres qu'on a pu faire ou qu'on n'a pas faites.
On sent que vous essayez aussi de démêler ça dans votre livre. C'est-à-dire de vraiment, vous le dites, c'est un récit d'évasion, mais vous essayez aussi de revenir à, il y a quelque chose de l'ordre de la théorie, ou en tout cas du décortiquage clinique de ce qui se produit au moment de l'évasion. Qu'est-ce qui a fait que cette évasion a pu avoir lieu?
Exactement. L'idée, c'est de mettre en contexte, de mettre dans un contexte social et historique l'évasion, et justement de pas la ramener sur un aspect purement individuel. Pour moi, il y aurait quelque chose d'extrêmement violent à dire ma mère était plus libre que certaines autres femmes, et c'est pour ça qu'elle s'en est sortie.
Ou elle a eu de la chance, ou c'était une volonté individuelle.
Voilà, ce serait terrible. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les femmes qui s'en sortent pas font pas assez d'efforts, ou n'ont pas assez de mérite, ou n'ont pas assez de force. Pour moi, chaque fois que j'essaye de raconter l'histoire d'une évasion, j'essaye de raconter les conditions sociales, collectives, politiques, qui ont rendu possible cette évasion. Et ces conditions, elles dépassent toujours l'individu, justement. Et elles sont multiples, et elles peuvent pas se résumer en quelques mots. Mais en tout cas, il est possible toujours de faire une archéologie de la liberté de l'évasion. Et peut-être, à partir de là, de rendre l'évasion possible pour d'autres. Parce que si vous dites simplement les gens qui s'évadent le font parce qu'ils sont plus forts ou parce qu'ils sont plus libres, vous enfoncez les autres. Alors que si vous dites il y a des conditions collectives, sociales, des conditions dans l'expérience qui permettent l'évasion, alors dans ces cas-là, on se pose la question qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre d'autres évasions possibles? Et donc mes livres sont aussi des livres qui posent la question qu'est-ce que vous faites pour rendre d'autres évasions possibles?
D'ailleurs, vous dites politique, sociale, mais c'est même une question presque économique. Vous dites que votre livre, vous auriez aimé presque l'écrire comme une facture, que vous y avez renoncé parce que ça alourdissait le texte. Vous vouliez faire une liste en marge de toutes les dépenses. Et il y a notamment ce passage où vous discutez avec votre mère du choix de l'électroménager. Vous dites ceci. Elle me disait, oui, non, plutôt celui-là, c'est une bonne idée. Non, je validais, je cherchais encore, je mettais dans le panier virtuel des achats ce qui lui plaisait, j'écartais ce qu'elle ne voulait pas. Les questions qu'on se posait étaient tellement pratiques et triviales. Est-ce qu'elle préférait le gaz ou l'électricité pour faire la cuisine? Est-ce qu'il lui fallait un congélateur? Et si oui, combien de compartiments? Et pourtant, évoquer ces détails minuscules me bouleversaient, parce qu'ils étaient la manifestation la plus concrète de sa liberté à venir, parce que la liberté est aussi une affaire de détails.
Oui.
Mais ce passage, moi aussi, m'a bouleversée parce que, à la fois, il m'a fait rire. Parce que je me suis dit, c'est vrai, c'est tellement con quand on choisit un congélo en se demandant si on doit avoir un ou deux compartiments. Et même, est-ce qu'on a besoin vraiment d'un congélo? En vrai, c'est ça aussi ça la question. Et en même temps, on se dit, mais oui, en fait, tout passe par là, par l'organisation purement pratique, matérielle de ces conditions de vie.
Oui, exactement. Dans Monique Sévade, j'ai voulu raconter la construction extrêmement concrète d'une liberté. Et justement, il existe toujours un peu dans le discours bourgeois humaniste l'idée selon laquelle la liberté ce serait un état d'esprit ou ce serait quelque chose d'abstrait. Alors que j'ai voulu montrer que pour quelqu'un comme ma mère, la liberté était quelque chose d'extrêmement détaillé, de matériel, de lié à des possibilités de se faire la cuisine, de loger, d'habiter un logement. Ma mère, au moment où elle s'est enfuie de chez cet homme qui l'a maltraitée, elle avait 55 ans, elle avait jamais vécu seule de sa vie. À 17 ans, elle était tombée enceinte. Elle avait avec de son premier mari, elle a vécu avec lui, elle a eu d'autres enfants, elle l'a quitté pour un autre homme, elle a eu d'autres enfants, elle a quitté cet autre homme, elle était encore avec les enfants. Ma mère avait jamais su ce que c'était se réveiller seule, avoir un espace à soi, avoir des meubles à soi, cuisiner pour elle-même. Et au fond, je me souviens quand je lui ai dit, je vais te donner de l'argent pour que tu puisses faire des courses pour t'acheter à manger. Ma mère me disait, je le raconte dans le livre, elle me disait, mais je sais pas ce que ça veut dire faire des courses pour moi. Je l'ai jamais fait, je l'ai fait pour les autres, mais je sais pas de combien j'ai besoin, je sais pas quoi te répondre. Et le livre est vraiment une sorte d'analyse extrêmement concrète de ce que veut dire la liberté. Peut-être que ce qui apparaît comme un détail est au fond le centre de ce qui rend
l'essence
même de la liberté.
Et c'est ce que vous disiez, Édouard Louis, la liberté, c'est pas quelque chose déjà qu'on a, en fait. C'est quelque chose qu'on acquiert, mais au sens même presque littéral, du fait d'acquérir, en fait, avec de l'argent.
Oui. Oui, c'est que c'est ça aussi. Je me suis rendu compte au moment de cette évasion que ma mère avait besoin d'argent pour reconstruire une vie après son départ de chez cet homme. Et ce qui fait qu'à posteriori, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'aurait fait ma mère si j'avais pas pu lui donner cet argent? Est-ce qu'elle serait restée avec un homme qui lui faisait du mal? Et combien de femmes nous entendent aujourd'hui? Combien il y a de Monique qui voudraient partir, mais qu'ils peuvent pas, parce qu'elles peuvent pas payer un loyer, parce qu'elles peuvent pas payer une caution, parce qu'elles peuvent pas forcément aller dans des foyers pour femmes battues qui existent. Mais si ces femmes sont pas battues, moi, ma mère me disait, il m'a jamais agressé, cet homme, il m'a jamais battu, donc j'ai pas ma place dans un foyer. Et donc, quelles sont les conditions concrètes de la fuite, et de sa possibilité? Mon livre est vraiment un livre sur cette question, et au moment où je l'écrivais, j'ai croisé la route du livre de Virginia Woolf, une chambre à soi, qui est un livre absolument merveilleux, dans lequel Virginia Woolf est invitée à donner une conférence sur les femmes et la littérature. Le livre est un recueil de conférences. Et quand Virginia Woolf arrive pour donner cette conférence, elle dit, bon, je sais qu'on s'attendait à ce que je parle de grandes femmes poétesses, de grandes écrivaines, mais moi, je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire que l'écriture pour une femme, c'est avoir 500 livres par an et avoir un espace à soi. Et tout à coup, Virginia Woolf, en disant ça, rend cette question de la liberté matérielle, concrète. La liberté n'est pas quelque chose d'esthétique, de plastique. C'est pas simplement « femme, soyez libre, écoutez vos envies, écoutez vos désirs ». Elle dit si une femme, elle n'a pas d'argent pour se nourrir, pour se payer un loyer, elle n'a pas la liberté pour écrire. Et à un autre niveau, c'est ce qui se passait pour ma mère, non pas pour écrire, mais pour être libre et heureuse. Et Monique Sévade essaye de dresser, d'une certaine manière, une facture du prix de la liberté. Essaye de tordre la littérature aussi, dans la mesure où une facture paraîtrait comme la chose la moins littéraire au monde, dans une vision classique de la littérature, la moins esthétique, la plus sale, la plus salissante.
Vous n'avez pas voulu en mettre quand même à la fin, malgré tout, des factures d'artis ou vraiment la chose la plus triviale de la liberté?
Oui, j'avais très envie. J'avais commencé à écrire le livre avec des marges dans le livre, comme le fait par exemple Roland Barthes dans le fragment d'un discours amoureux où il met des marges et il met des citations ou des références dans les marges. Et j'avais commencé à écrire Monique Sévade avec des marges. Or, je mettais pas, contrairement à Barthes, des citations ou des références. Je mettais le prix de ce que coûtait chaque moment de liberté, s'acheter une gazinière pour pouvoir se faire à manger, payer une caution pour avoir un logement loin et vivre seul. Et je le dis à un moment dans le livre, bizarrement, ça marchait pas. Bizarrement, ce geste rendait le livre moche et illisible.
Comme quoi la littérature a quand même besoin d'être belle.
Comme quoi la littérature a besoin d'être belle. Et je dis dans le livre, à un moment donné, peut-être que j'aurais pu réussir et que j'ai échoué. Dans ces cas-là, c'est l'échec est lié à moi et c'est ma faute. Ou alors la littérature ne suffit pas. Et la littérature ne peut pas tout dire. Et on a besoin aussi d'autres choses que de la littérature pour raconter le monde. Donc il y a cette interrogation-là aussi.
La police t'a téléphoné pour te dire que j'avais volé un téléphone. J'ai trouvé l'accusation exagérée. On ne l'avait pas volé, il était dans la rue, sur le bord de la route. On ne savait pas à qui il appartenait, mais tu avais l'air de croire ce que disait la police, plus que ce que je disais. Tu es venu me chercher dans ma chambre, tu m'as giflé, tu m'as traité de voleur et tu m'as emmené au commissariat. Tu avais honte. Tu m'as regardé comme si je t'avais trahi. Tu n'as rien dit dans la voiture, mais quand nous nous sommes assis devant les policiers dans leur bureau recouvert d'affiches incompréhensibles, tout de suite, tu t'es mis à me défendre avec une force que je n'avais jamais rencontrée, ni dans ta voix, ni dans ton regard.
Un extrait de l'adaptation de Stanislas Nordet de votre texte, Édouard Louis, qui a tué mon père, mise en scène donc de 2020.
Vous avez écrit, Édouard Louis, sur votre père, sur votre mère, c'est le deuxième livre sur votre mère. Vous dites que vous avez interrompu la rédaction d'un livre sur votre frère pour écrire ce livre, Monique Sévade. Vous avez écrit sur vous. Pourquoi vous avez besoin d'écrire sur votre famille? Est-ce que c'est une grande œuvre sur la famille que vous êtes en train d'élaborer?
Oui, j'ai toujours été fasciné par ce projet très 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 19e siècle en littérature qui consistait à utiliser les livres comme des pierres qui construiraient une longue fresque du monde social.
Une sorte de système même presque.
De système Balzac, Zola, Proust, qui de livre en livre essayaient de construire un tableau entier du monde social. Et j'ai toujours trouvé cette manière de faire la littérature magnifique. Et avec Monique Sévade, j'essaie de parler de l'évasion. Avec Qui a tué mon père, j'essaie de parler de la politique. Avec En finir avec Eddie Bellegueule, j'essaie de parler de l'enfance. C'est vrai qu'il y a pour moi cette recherche de la construction d'un monde à travers le portrait d'une famille. Oui.
Et qu'est-ce qui fait famille selon vous, Édouard Louis? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, avec votre mère, dont vous vous êtes éloigné, mais là, dans Monique Sévade, c'est très beau, on assistait déjà aussi à ça dans Combat et métamorphose d'une femme, à vos retrouvailles. Là, vous le dites, il y a de l'aide. Vous en êtes même étonné. Vous dites, pourquoi je ressens autant le besoin de l'aider? D'une certaine manière, on a envie de vous dire, parce que c'est votre mère. Mais en fait, ce lien-là n'est pas si facile. Qu'est-ce qui fait que la famille, les liens familiaux résistent malgré les ruptures, malgré les différences, malgré aussi les évolutions sociales? Vous n'appartenez plus à la même classe sociale que votre famille. Qu'est-ce qui fait que ça dure?
Cette durée, elle peut être à la fois une malédiction, hein, l'impossibilité d'échapper à quelque chose, mais aussi elle est liée au fait que les individus changent. Et c'est ça que j'essaye de montrer dans mes livres. Ma mère n'est pas la même dans « Finir avec Eddie Bellegueule » ou « Histoire de la violence » ou « Monique Sévade ». Et évidemment, les liens avec les individus qui nous entourent changent parce que ces individus eux-mêmes changent. Et quand on lit Proust ou quand on lit Balzac, c'est magnifique de découvrir de livre en livre à quel point des personnages qu'on pensait connaître deviennent un jour quelqu'un de totalement différent. Mon angle à moi, l'angle qui m'intéresse, c'est évidemment celui de l'autobiographie et celui de la réalité, pas celui de la fiction. Et ça, je crois que c'est très lié aussi à à l'expérience de mon enfance et à l'expérience de la pauvreté dans mon enfance. Vous savez, il y a cette scène absolument magnifique, je crois, dans le deuxième ou le troisième tome de La Recherche de Proust, où un jour le narrateur est en train de lire un livre et Françoise, la bonne, lui demande qu'est-ce que vous êtes en train de lire ? Et est-ce que c'est tiré d'une histoire vraie ? Et quand la bonne dit ça, le narrateur est comme scandalisé. Et il y a toute une réflexion du narrateur très bourgeois, très privilégié, qui dit elle ne comprend pas que la littérature, c'est une œuvre d'imagination,
de
c'est
création.
Une manière de création, c'est s'arracher justement au réel, c'est là qu'est l'art. Et moi, je me souviens que quand j'ai découvert cette scène dans Proust, je me suis dit, mais moi, je me reconnais en Françoise, je me reconnais dans la réalité, j'ai toujours envie de revenir à la réalité. Et au fond, peut-être que je préfère faire des livres pour les femmes de ménage que pour la bourgeoisie. Y a cette idée dans les classes populaires selon laquelle la réalité, c'est notre catégorie d'appartenance. Exactement comme être femme ou être noire ou être gay peut être une catégorie d'appartenance, la réalité, c'est la catégorie d'appartenance des pauvres, parce que cette réalité, elle se rappelle toujours à vous. Est-ce que je vais pouvoir payer une facture ? Est-ce que je vais pouvoir acheter des affaires pour l'école à mes enfants ? Est-ce que je vais pouvoir mettre du chauffage à la maison ? Et c'est pour ça que dans les classes populaires, il y a très souvent une volonté de vrai. C'est pour ça que Françoise dit à Proust, est-ce que c'est une histoire vraie ? C'est pour ça que les films hollywoodiens écrivent toujours en grand, tirés d'une histoire
c'est
vraie.
Pour ça qu'il y a la télé-réalité ?
Exactement, parce que sans doute tous ces gens qui font des choses souvent très moches à la télé, mais ont conscience de ça, ont conscience du fait que pour un public de masse, pour un public populaire, il y a une envie de réalité. Mmh. On a envie de se voir représenté.
Mais en même temps, vous dites très bien aussi, Édouard Louis, que vous n'avez pas peur de l'émotion. Du malaise ou alors de la joie que peut créer la confrontation avec le réel. Et on qualifie souvent d'ailleurs les œuvres populaires de pathos, de pathétique, de sentimentaliste, de tire-larme, de guimauve, etc. Donc il y a quand même aussi ce désir-là, en fait, dans des œuvres qui ne seraient pas que bourgeoises.
Absolument. Absolument.
Comment on concilie cette appartenance à la catégorie de la réalité, où la réalité, c'est un vrai cadre une vraie interrogation et en même temps cette recherche d'évasion peut-être par l'émotion.
Oui, et cette recherche de réalité par l'émotion. C'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, je me suis rendu compte, comme vous disiez, qu'il existait tout un ensemble de règles de la littérature qui s'abattaient sur moi et qui me prescrivaient une certaine façon d'écrire. Elles sont très dures à définir, ces règles de la littérature, parce que elles sont comme les règles du genre. Il n'y a pas dans la rue des panneaux qui vous disent vous devez vous comporter comme ça, comme homme ou comme femme. Il n'y a pas une police du genre qui vous arrête, quoique. Les règles de la littérature, elles fonctionnent comme les règles du genre. C'est qu'il n'y a pas des panneaux tous les jours dans la rue, il n'y a pas une Bible, mais il y a des micro-pouvoirs qui vous disent il faut écrire de cette façon, il ne faut pas écrire de cette façon. Et une des choses illégitimes que j'ai profondément ressenti quand j'ai commencé à écrire, c'était cette idée de l'émotion. J'entendais des journalistes, des éditeurs qui disaient, lorsqu'il ou elle voulait dire du bien d'un livre, disaient « c'est formidable parce que c'est sans pathos ». Et moi je me disais « mais qu'est-ce qui fait que dans ce monde, l'émotion est considérée comme quelque chose de négatif ?» Moi, j'ai connu des femmes de ménage qui avaient les yeux brûlés par leur travail, par les produits chimiques à 50 ans. C'est une histoire triste. J'avais des cousines dans mon enfance qui étaient caissières, qui avaient les poignets broyés par leur travail à la caisse du supermarché, qui devaient plonger leurs mains dans l'eau tiède tous les soirs. Ça, c'est des histoires qui font pleurer. Moi, si je raconte pas un livre qui fait pleurer, je participe à l'invisibilité de ces vies. Je trahis ces vies. Et donc, au fond, je me suis senti très rapidement en porte-à-faux avec les règles de la littérature, il y en a plein d'autres, et j'ai eu envie, si vous voulez, de faire de la littérature à coups de marteau, comme Nietzsche disait, il faut faire de la philosophie à coups de marteau, d'essayer de casser l'une après l'autre.
Toutes les idoles qui nous enferment.
Les idoles anciennes de la littérature, l'émotion, même l'autobiographie, qui justement reste encore assez illégitime dans toute une partie de la littérature. J'ai l'impression, avec mon passé d'enfant des classes populaires, d'emmener dans la littérature ce que la littérature rejette.
Est-ce que vous trouvez vraiment, Édouard Louis, que vous écrivez pour les femmes de ménage ?
Non, c'est un peu une boutade, parce que évidemment il y a une violence de la littérature qui fait que elle est pas accessible à tout le monde. Il y a un coût d'entrée dans la littérature.
Vous voulez vous adresser à ces femmes, à des hommes qui iront pas en librairie forcément acheter un livre paru au seuil, mais vous y êtes. Donc c'est tout le paradoxe aussi de votre position.
Je voudrais, et en même temps, je sais que c'est impossible. Je sais que quand, vous savez, c'est quand on est un écrivain ou une écrivaine engagée, on vit toujours dans une forme de deuil, de savoir que les gens pour qui on écrit auront pas forcément accès à ce à quoi on écrit. Parce que la littérature, oui, elle a un coût d'entrée très grand. Est-ce qu'on pourrait créer un autre type de littérature? Je sais pas, sans en baisser la qualité, c'est ça le problème aussi. Je me souviens d'un entretien de la rappeuse Diams qui disait, à propos de la musique qu'elle faisait, Diams disait, moi quand j'ai commencé la musique, j'avais aucune formation musicale, j'avais pas de voix, je connaissais pas la musique, j'avais pas d'éducation particulière, mais j'avais des choses à dire, j'avais souffert, et le rap m'a donné un lieu dans lequel j'ai pu exprimer ça. Est-ce que la littérature pourrait créer un espace à l'intérieur duquel on pourrait apporter d'autres types d'expériences, d'autres types de langages? Peut-être pas. Peut-être que la littérature, elle est par définition plus élitiste. Alors on peut essayer de la tordre, on peut essayer de la faire à coups de marteau. Oui, j'essaye, mais je constate mon échec. Oui.
Que c'est dur, ou parce que quoi? Parce que ce serait pas accepté? Parce que ça plairait pas? Parce qu'on a des attentes maintenant vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'un type de style que vous auriez inauguré, ou parce que c'est impossible de faire figurer une facture dans un livre?
Non, en même temps, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose de possible.
Moi, je crois que c'est possible.
Qu'il faut continuer de chercher. Il y a aussi, je cite beaucoup de gens, mais parce que j'aime beaucoup penser collectivement, et je pense jamais seul. Il y a un volume très beau de Jean-Paul Sartre sur le théâtre, à qui on demande à Sartre pourquoi est-ce que le théâtre est bourgeois? Pourquoi c'est la bourgeoisie qui va au théâtre? Et Sartre répond, mais le théâtre n'est pas bourgeois, le théâtre est devenu bourgeois. Si on pense aux grandes tragédies de Sophocle ou aux grandes tragédies de Shakespeare, c'était des spectacles populaires où des gens avec de milieux très différents allaient, des gens très différents voyaient les spectacles. Et en fait, Sartre dit, faire l'histoire du théâtre, c'est faire l'histoire d'un vol. Et comment la bourgeoisie a volé le théâtre et en a fait une sorte de d'outil de distinction, comme le bon vin ou comme les vacances dans des destinations rares. Et on peut pas dire que Shakespeare ou Sophocle étaient faciles littérairement. Et pourtant, il y avait un accès qui était possible. Est-ce qu'il serait pas possible de faire la même chose avec la littérature? Est-ce qu'on pourrait pas faire une littérature qui revolerait l'art et la culture à la bourgeoisie? J'ai pas la réponse tout de suite, mais ce que je peux dire, c'est que de livre en livre, j'essaye de creuser cette guerre contre la littérature et contre tout ce qu'elle empêche aujourd'hui.
Merci beaucoup, Édouard Louis. De vous, on peut lire Monique s'évade, et c'est paru aux éditions du Seuil.
Merci infiniment.
Nous terminons toujours cette émission en musique, et nous avons donc fait un choix entre deux chansons, et vous allez vous choisir, soit c'est des chansons de votre adolescence, soit la chanson EO de Tragédie, soit la chanson Petite Sœur de L'âme.
Il n'y a pas d'âme, ouais.
Non, c'est vrai.
Je vais prendre L'âme, bien sûr.
Je te vois regarder par la fenêtre comme si c'était moi, comme si j'étais dans ta tête. Crois ma petite sœur, le silence et le froid, je connais par cœur, j'y suis passée avant toi.
Et voilà, donc c'est L'âme, Petite Sœur. Un grand merci à l'équipe des Midi de Culture qui sont préparées par Issa Touendoy, Anaïs Isbert, Cyril Marchand, Zora Vignier, Laura Dutèche-Pérez et Manon Delasselle. Réalisation Nicolas Berger, prise de son Ludovic Auger. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Merci Nicolas, à demain.
À demain, Géraldine.